Eh bien, bonjour à tous, c'est dimanche, on est content, il fait beau, les enfants sont déjà prêts pour la piscine, ils espèrent que le culte ne va pas être trop long. Ah, c'est bien, c'est bien, il n'y a pas que les enfants d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est vrai, les gens se plaignent dans ce monde, ils se plaignent. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde de Jésus-Christ, nous sommes de son royaume. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un jour, je vous avais dit, on est des extraterrestres. Hein. On est venu dans ce monde, mais en fait, ce monde, la Bible nous dit, il est entièrement sous la domination du diable. Et nous, on est là et on le gratte. C'est vrai qu'on est une plaie pour lui, on l'empêche de tourner en rond. Mais quand nous serons partis, quand le Saint-Esprit sera parti avec nous, qui nous auront été enlevés d'ici, le diable va s'en donner à cœur joie, et ceux qui ne veulent pas nous écouter maintenant, ben, ils vont passer un sale moment, un sale moment. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? On leur dit, on leur dit. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de bêtises, et notre voix, elle passe au milieu de toutes ces bêtises, et les gens ne savent pas où est la vérité, où est le mensonge. C'est ça qui est terrible. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens n'aimant pas la vérité se donneront une foule de docteurs. Et alors, ils suivent toutes sortes de gens. Vous avez vu sur Internet, mais c'est effrayant. C'est à se demander si vraiment on va mettre des vidéos de nous sur YouTube parce que il y a tellement de zinzin. Mais vous avez vu ce qu'il y a comme zinzin? Mais c'est effarant. C'est effarant. C'est effarant. Donc ça fait peur. Moi, voilà, il vaut mieux rester discret et le Saint-Esprit guide les gens qui doivent nous trouver. Ils nous trouvent. Enfin, je ne sais pas, on va prier, on va chercher la volonté de Dieu, on va demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut, mais vraiment, de plus en plus, on se sent complètement à l'écart de ce monde de fou. L'Église de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu sur terre. Et dans ce royaume, ben, il y a un roi. Et notre roi à vie, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez dire Amen? C'est Jésus-Christ, notre roi à vie. Nous sommes les sujets de ce royaume, mais il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls sujets de ce royaume. Ce royaume, il est peuplé d'êtres célestes, et ceux qui sont à notre service ici-bas, et qui sont invisibles, sont les anges. Ce sont des envoyés de Dieu qui sont là pour nous aider dans notre vie, et parfois on peut les entendre. Et parfois, eh bien, ils se laissent voir. Des fois, c'est très furtif. Des fois, c'est plus précis. Mais ils se laissent voir. Et de plus en plus, sur cette terre, il y a des témoignages de gens qui voient des anges et qui entendent des anges. Et les anges, ils veulent les mêmes choses que Dieu. Ceux qui sont envoyés de par Dieu. Et si nous, nous voulons aussi les mêmes choses que Dieu, alors nous pouvons être au bénéfice de l'action, de la protection de ces anges. Aussitôt quand on parle des anges, tout de suite, les gens pensent immédiatement, attention, Satan peut se déguiser en ange de lumière. Ça, c'est certain. Voilà, bon, ben, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On sait que c'est comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu ne laissera jamais, je dis bien jamais, un de ses enfants être sous la férule d'un ange de Satan. Jamais. Écoutez, c'est un père pour nous. Il est notre père, notre papa. Si Dieu nous laissait tomber sous la férule d'un ange de lumière, ça serait un petit peu comme si notre papa nous laissait en toute conscience, notre papa dans la chair, hein, comme s'il laissait son enfant seul dans un appartement avec un pédophile. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Un papa ne peut pas empêcher son enfant de croiser un pédophile dans la rue, mais il peut l'empêcher d'être victime. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout notre Dieu, il est capable, tout-puissant, pour nous empêcher, pour nous protéger véritablement de tous ces anges de lumière. Dieu est bon. Et si vous aimez Dieu, si vous vous efforcez d'ajouter à votre foi la qualité morale, si vous ajoutez à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, alors la Bible nous assure que votre vie sera couronnée par l'amour. On trouve ça dans 2 Pierre. Vous ne pouvez pas être trompé par un ange de ténèbres, même très bien déguisé. C'est un fait que, des fois, ils sont tellement bien déguisés, ils sont séduisants. L'iconographie catholique nous montre toujours les démons comme des monstres, mais ce n'est pas comme ça en réalité. Hein. Parce que comment voulez-vous être séduit par une horreur générale? Ils sont au contraire, ils ne sont pas vilains. Hein. Ils viennent et ils vous séduisent. Mais nous, ils peuvent nous... On peut s'interroger, mais il y a un moment, non, ça ne joue plus. Et puis, ce n'est pas la question de l'apparence. Ce n'est pas la question de l'apparence. Vous avez des anges de Dieu et vous avez des anges humains, de Dieu, mais qui sont humains, c'est-à-dire des envoyés de Dieu qui sont humains. Et ils peuvent avoir une apparence très correcte, genre pasteur habillé comme un VRP, vendeur de bougies au porte-à-porte, ou alors habillé en... Il y en a un sur le web qui s'appelle, je ne sais plus comment, Morgan Priest, c'est ça? Il est habillé en gothique. Alors, il choque tout le monde, mais il reste habillé en gothique parce que, voilà, il dit, c'est l'habit ne fait pas le moine, c'est ce que je fais, c'est ce que je dis qui est important. Et évidemment, il choque les chrétiens bien-pensants parce que le chrétien bien-pensant, il regarde à l'apparence tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est une apparence un peu choquante. Mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire de Priest, c'est que les chrétiens sont durs avec lui. Quand on écoute les critiques, ils sont méchants avec lui. Ils le traitent d'une façon odieuse. Je crois que c'est pire encore ce qu'ils font eux que ce qu'il fait lui, de s'habiller gothique. Écoutez, franchement, Jésus était en robe, nous on est en costume cravate. Il dit, faut pas s'habiller en femme. Lui, il était habillé avec une robe. Bon, voilà, Priest aussi s'habille avec une grande robe noire. Enfin, ça fait bizarre, mais bon, voilà, quoi. C'est des idées qu'on se fait. Bon, moi, je ne veux pas juger cet homme sur son apparence. Il ne faut pas juger sur l'apparence. On peut être trompé par l'apparence. Et vous avez des gens qui ont l'air tout à fait corrects et qui sont des véritables dégoûtants. Et donc, il faut avoir un discernement spirituel. Mais même très bien déguisé, vous ne pouvez pas être trompé par un ange de ténèbres. Dieu vous protège. Si vous développez toutes ces qualités dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut les développer. Et il faut d'abord les ajouter en nous, et puis ensuite il faut les développer. Ces qualités, elles ne vous laisseront pas inactifs dans l'œuvre de Dieu, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, elles vous laisseront. Ces qualités ne vous laisseront pas stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, si un chrétien ne possède pas ou ne développe pas ces qualités, il est aveuglé par la myopie. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit rien du tout, mais il est comme quelqu'un qui est myope. C'est terrible, hein, Eric, d'être myope. Mais tu te rappelles plus, hein? Notre frère Eric a été opéré il y a quoi? Il n'y a même pas une semaine.
2 semaines
déjà, le temps passe vite ici dans le midi. Et voilà, une petite opération, ça dure quoi? 10 minutes? Une demi-heure le temps, voilà. Et alors qu'il a été myope toute sa vie, voilà, maintenant il voit sans lentilles, sans lunettes, c'est extraordinaire. Et Dieu peut aussi vous guérir de votre myopie spirituelle, mais encore faut-il le vouloir. Eric, il a voulu aller chez le chirurgien pour se faire opérer. Et il faut que vous vouliez être guéri de votre myopie spirituelle. Il faut d'abord que vous en ayez conscience. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience d'être myopes spirituellement. Ces gens-là, ils ont oublié comment ils ont été purifiés de leur ancien péché. C'est écrit dans 2 Pierre 1, 3, 9. Je pense qu'on peut lire 2 Pierre 1. 3, 9. Alors, ça dit, 2 Pierre 1, 3, 9. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses.
Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Vous vous rendez compte de ce programme? Pour cette raison même, donc à cause de cela, parce que tout cela vous est offert, faites donc tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Beaucoup de gens se plaignent, il n'y a pas d'amour dans l'Église, mais déjà ils n'ont pas commencé par mettre tout ce qu'il faut dans le fondement, hein, c'est-à-dire la foi, par-dessus la foi, la qualité morale, par-dessus la qualité morale, la connaissance, par-dessus la connaissance, la maîtrise de soi, etc. etc. Puis c'est l'amour qui vient coiffer le tout. Mais on ne peut pas avoir l'amour vraiment si on n'a pas mis tous ces fondements d'abord et si on n'y a pas travaillé, si on n'a pas ajouté nous-mêmes. Vendredi, je vous disais, gardez-vous vous-même, celui qui se garde, le diable ne le touche pas. Mais ça, c'est la façon de se garder, c'est d'ajouter en nous toutes ces choses. En effet, si ces qualités sont en vous, elles se développent, voyez, elles se développent. Elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, il oublie qu'il était purifié de ses anciens péchés? Moi, je suis sûr que tous les chrétiens se rappellent que, voilà, un jour ils se sont convertis, puis Jésus a pardonné leurs anciens péchés, puis ils se rappellent très bien ce que c'était leurs anciens péchés. Ils disent, moi, j'ai pas oublié, donc ça va bien. Ben, je vais vous dire quelque chose. Non, ça va pas bien. Il y a quelque chose qui manque là, parce qu'il faut prendre tout ce texte dans le contexte. Comment peut-on oublier qu'on était purifié de nos anciens péchés? Avez-vous été purifié de vos anciens péchés? Vous qui êtes là et qui m'écoutez, vous pouvez dire oui, vous êtes des chrétiens. Mais comment ça s'est passé? Quel était le plan pour vous? Vous avez été purifié de vos anciens péchés par Jésus-Christ sur la croix. Vous êtes d'accord? Vous avez été justifié par la résurrection. Vous avez été purifié parce que les apôtres ont écrit la Bible. Si vous n'aviez pas eu ce témoignage de la Bible, vous n'auriez jamais su que Jésus-Christ était mort. Donc c'était nécessaire qu'ils écrivent la Bible. Et vous avez été purifié parce que quelqu'un vous a enseigné ce qui se trouve dans la Bible. Ça, c'est le plan du salut pour vous personnellement. Il est différent pour chacun. Pour tous, Jésus-Christ est mort à la croix. Pour tous, il est ressuscité. Pour tous, ils ont la Bible. Mais ils n'ont pas tous été contactés par la même personne. Si vous méprisez un de ces points, si par exemple vous ne lisez jamais la Bible, ou si vous n'êtes pas sûr que vraiment Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de vos péchés, si vous méprisez un de ces points, vous méprisez le plan du salut préparé pour vous. Il y a des trous, il y a des choses qui manquent. Alors je dis, oui, je confesse que Jésus-Christ est Dieu venu en chair. Je l'ai appris par la Bible. Hein. Oui, il est mort, il est ressuscité pour mon salut. J'ai trouvé ça dans la Bible. Oui, je confesse que les apôtres ont écrit ce que nous appelons la Sainte Bible, afin que le message du salut puisse nous être transmis. Oui, je confesse que sans Daniel Siegenthal de Chèbre, qui m'a parlé de Raphaël, je n'aurais jamais été sauvé. Merci Dani. Je n'aurais jamais entendu parler de Raphaël Duval, parce que c'est lui qui est venu m'en parler. Vous voyez, c'est lui qui m'a dit, il y a un gitan qui passe à Lausanne, j'ai entendu ça à la radio. On pourrait dire même, sans Michel Denerea, le présentateur à la radio, je n'aurais jamais su, parce qu'il n'aurait pas invité Raphaël, et Dani n'aurait pas entendu ça, et je n'aurais pas... Vous voyez? Donc tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu pour mon salut. Un jour, j'ai rencontré Michel Denerea dans une librairie, la librairie Payot à Lausanne. Et je l'ai reconnu, parce que c'est un homme public, un homme de radio, de télévision. Alors j'ai été tout de suite vers lui et je l'ai remercié. Je dis, vous savez que vous avez participé au salut de mon âme? Alors il dit, ah bon, qu'est-ce que vous me racontez? Et j'ai raconté, il était très, très touché, très touché. Je l'ai remercié et je l'ai béni. Oui, je confesse que c'est grâce à Raphaël Duval que je suis parvenu à la connaissance de Jésus-Christ. Voilà quel a été le plan du salut pour moi. Et pour vous, quel a été le plan du salut? Si vous méprisez quelque chose ou quelqu'un dans ce plan, ben vous êtes un rétrograde. Par exemple, si je rejetais Raphaël Duval, j'aurais besoin de m'efforcer à ajouter l'amour fraternel à ma vie. Combien de gens ont été évangélisés et ont reçu Jésus-Christ au travers de Raphaël Duval? Des milliers. Et Raphaël Duval, à la fin de sa vie, il m'a dit, ben Michou et toi, vous êtes les seuls à venir régulièrement me voir et à être reconnaissants. C'est quand même triste, cela. Les gens n'ont pas de reconnaissance. Moi, je serai éternellement reconnaissant à Raphaël Duval. Et je plaide en la faveur de Daniel Siegenthal tous les jours, parce que c'est sans lui, je ne serais pas là où j'en suis. Eh bien, si je rejetais Raphaël Duval, j'aurais besoin de m'efforcer d'ajouter l'amour fraternel à ma vie. C'était pas difficile avec Raphaël Duval, c'était un homme aimable. Par contre, si c'est moi qui vous emmenais au Seigneur, je ne suis pas forcément très aimable, peut-être, vous allez dire. Mais en tout cas, une chose est certaine, si vous n'avez pas d'amour fraternel pour la personne qui vous a emmené à Jésus-Christ, eh bien, l'amour ne viendra pas coiffer la construction du plan que Dieu a fait pour vous. Il ne viendra pas coiffer cette œuvre magnifique par l'amour. Et les anges ne pourront pas vous aider. Est-ce que vous voyez ça? C'est simple à comprendre. Même les gens du monde comprennent ce principe. Ils appellent ça le principe du chaînon manquant. S'il manque un maillon dans la chaîne, ben, c'est foutu. Hein? Faut bien comprendre le plan du salut et honorer ce qui doit être honoré. Pour qu'il y ait la paix dans le monde, comment ça se passe? C'est pas moi qui le dis. Hein? Pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que les nations vivent en paix. Mais pour que les nations vivent en paix, il faut que les villes des nations ne se soulèvent pas l'une contre l'autre. Ça a été le problème pendant des années ici en France. Il y avait des comtés, il y avait des villes, des châteaux, les gens se battaient entre eux jusqu'au moment où, à la fin, ils ont quand même fédéré tout ça. Pour qu'il y ait la paix dans les villes, les voisins doivent se comprendre, s'aimer, s'entraider. Pour qu'il y ait la paix entre voisins, il faut de l'harmonie dans le foyer. Parce que si les voisins voient que vous frappez votre femme ou que vous frappez votre homme, vous savez qu'il y a de plus en plus d'hommes battus. C'est normal, les hommes deviennent de plus en plus... Bon. Mais voilà, donc c'est terrible. Hein? Et pour qu'il y ait la paix chez soi, il faut la trouver dans son propre cœur. Il faut la trouver dans son propre cœur. Donc tout vient de vous au départ. Ôtez un de ces maillons et vous n'êtes plus connecté. Vous n'êtes plus connecté à la paix. Voyez, c'est pas compliqué à comprendre. Mais des fois, il faut répéter les petites choses toutes simples pour que les gens réalisent « Ah ouais, c'est vrai, c'est là que j'ai péché. J'ai oublié l'amour fraternel. Tiens, aujourd'hui, je vais prendre mon téléphone, je vais téléphoner à l'homme ou à la femme qui m'a parlé de Jésus. Je vais lui dire que je l'aime et que... » Et voilà, ça serait une bonne chose, n'est-ce pas? Et là, si vous ne faites pas ça, vous vous trouvez dans la désharmonie. C'est vous. C'est vous. Après, vous vous étonnez, vous avez des problèmes, vous êtes dans le découragement et tout. Ben oui, mais voilà. Malheureusement, dans ce monde, exactement comme dans l'Église, il y a des gens qui sont charnels et toxiques. Alors, on doit être vigilant. On doit être vigilant. La Bible dit que nous sommes les soldats du roi des rois. C'est-à-dire que nous sommes... les rois, et il est le roi des rois. Nous sommes des régnants. Hein? Nous régnons sous notre propre vie, pas sur la vie des autres. Nous régnons sous notre propre vie. Nous sommes membres du royaume, et en tant que membres du royaume, nous sommes armés. Eh oui, nous sommes armés. Il paraît que maintenant, en France, les policiers auront le droit d'être armés, même quand ils sont en civil. Ils auront le droit d'avoir avec eux, se transporter avec eux un bélier de 300 kilos chacun pour pouvoir taper. Un disciple de Jésus possède les armes de Dieu. offensive et défensive. N'est-ce pas la Bible qui le dit?
Bien sûr que c'est la Bible qui le dit.
Et le soldat du roi des rois, le disciple de Jésus-Christ, il ne demande pas aux autres la permission de brandir son arme, par exemple son épée. Hein? Il demande pas, je n'ai pas à vous demander la permission de me servir de l'épée que j'ai reçue. Et je ne perds pas non plus de temps à expliquer mes gestes ou à les justifier. Je ne veux pas perdre ma vie à toujours justifier ce que je fais, ce que je dis. Fidèle aux décisions de Dieu, il nous faut répondre de ce que nous faisons à notre roi. Et dans l'Église de Jésus-Christ aussi, au ministre. S'il demande, mais le ministre n'est pas obligé de tout savoir de votre vie et de faire de l'ingérence dans votre couple et des choses, c'est complètement idiot, c'est pas juste. Mais quand même, il est là pour faire son travail et si vous avez besoin de son aide, avant de demander l'aide de Dieu ou des anges, des fois, il suffit d'aller voir son pasteur, il a les réponses. Le guerrier de la vraie lumière, c'est-à-dire de Jésus-Christ, eh bien, il regarde à ses côtés et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit ses amis qui sont là et qui combattent avec lui. Ça, c'est bon. Il les reconnaît. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il les reconnaît? Il reconnaît leur nez, leurs oreilles, leurs omoplates. Non, il reconnaît leur valeur. Il reconnaît leur vertu, il reconnaît leur capacité, il reconnaît leur fidélité au roi et au royaume. Parce que quand on est fidèle au roi, on est fidèle au royaume. On ne peut pas être fidèle, dire qu'on est fidèle au roi et être infidèle dans le royaume et se comporter comme un sapajou dans le royaume. Ça n'existe pas, ça n'est pas juste. Et le roi, il est mis au courant et puis c'est schlac derrière les oreilles. Un jour ou l'autre. Alors il regarde en arrière, le disciple de Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit ses adversaires aussi. Et le disciple de Jésus-Christ, il est implacable avec ce qui concerne la trahison. Implacable, comme Jésus. Jésus est implacable au sujet de la trahison. Regardez, c'est à l'image de Jésus que nous sommes. Et Jésus n'a pas du tout empêché Judas d'aller se pendre. Alors, vous n'allez pas empêcher vos adversaires d'aller se pendre. Laissez-les aller se pendre. Par contre, ne vous vengez pas. Vous n'avez pas à le faire. Mais laissez-les aller se pendre. Ça leur fait plaisir. Si c'est pour eux le moyen de s'exprimer. Que fait ce guerrier du roi des rois? Il se contente de mettre une distance entre lui et ses adversaires. Il ne cherche pas absolument le combat. Mais il cherche à mettre une distance entre lui et ses adversaires sans lutter avec eux plus longtemps que nécessaire. Il est, bien sûr, on doit lutter, mais il n'y a pas besoin de lutter plus longtemps que nécessaire. Notre vie n'est pas obligée. Hein? La terre est suffisamment grande. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Et comme Jésus nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, ben, le monde nous appartient, on peut aller où on veut. Pourquoi est-ce qu'on va rester collé à des gens qui nous cassent les pieds? Voilà ce qu'est un guerrier de Jésus-Christ. Il ne tente pas de paraître, il est tout simplement comme Jésus. Jésus, il est. Dieu à Moïse, il lui a dit « Je suis ». Mon nom, c'est « Je suis ». Et Jésus dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, je suis ». Et toi, t'es quoi? Est-ce que tu peux dire « Je suis vertueux, je suis rempli de force, je suis plein de connaissances, je suis maître de moi, je suis persévérant, je suis dans la piété, je suis dans l'amour fraternel ». Si oui, ben alors mon frère, ma sœur, et si tu progresses dans cela, c'est-à-dire si tu persévères, la Bible dit c'est celui qui persévère jusqu'au bout qui sera sauvé, eh bien tu seras couronné par l'amour, tu seras couronné par Jésus qui est l'amour. Oh mon frère, ma sœur, accorde à chaque chose la valeur qu'elle mérite. Accorde à chaque personne aussi la valeur qu'elle mérite. Il ne faut pas écouter les mauvais anges. Il y a des mauvais anges, quand je dis ange, ça veut dire envoyé. Il y a des envoyés de Dieu, il y a des envoyés du diable. N'écoute pas les envoyés du diable, qu'ils soient humains ou esprits, ne les écoute pas, ne perds pas ton temps. Un jour, tu vas te trouver devant un problème grave et le démon va te dire « ne t'inquiète pas, c'est pas sérieux ». Ou quelqu'un va te dire « t'inquiète pas, c'est pas sérieux ». Puis un autre jour, tu vas te trouver dans une circonstance banale et le démon va te dire « oh là là, vas-y, mets toute ton énergie à résoudre cette situation ». Parce qu'il veut te tromper. Il veut te tromper. Un soldat du roi des rois n'écoute pas le démon. Il connaît la voix de Jésus et il connaît la voix des amis de Jésus. Il sait les reconnaître. Il ne se trompe pas. Moi, les gens qui me disent au bout de 30 ans, Michel ceci, Michel cela, attendez, ils avaient 30 ans pour s'en rendre compte, ils ont été un peu longs avant de se rendre compte que je suis soi-disant méchant, autoritaire et tout, il fallait partir avant. Hein. Bon, aussitôt que j'ai vu que ça tournait mal, j'ai dit, bon, ben, je me tire, puis c'est bon. Voilà, c'est... Bon, c'est pas, faut me... je trouve que c'est ridicule. Vous savez, quand on est dans l'incapacité de se défendre, et qu'il semble que la défaite cherche à nous voler, eh bien, il faut dépenser nos forces à être patient. Jésus dit, soyez comme la colombe et soyez comme le serpent. Le serpent, je ne sais pas si vous savez, mais il a une autre qualité que celle d'être rusé, d'être prudent aussi. La Bible nous dit prudent comme un serpent, c'est ça? Il est aussi patient. Est-ce que vous avez déjà... Moi, j'ai regardé des émissions sur les serpents à la télévision. Il peut rester des heures sans bouger. Il regarde, il bouge pas, il attend sa proie. Et au moment où c'est possible, chac ! Vous avez vu ça ? C'est fantastique. Il faut être patient comme un serpent. Ça, il faut que je développe. Ça, il faut que je développe. Patient comme un serpent, c'est terrible. Hein ? Sans bouger. Attendre que l'autre se manifeste et soit dans un moment de relâche. Et on le tape. Quelqu'un regarde, mon frère, ma sœur. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui voit ta souffrance. Il y a quelqu'un qui voit que ce n'est pas juste ce qu'on te fait. Et il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait. C'est Jésus-Christ. Alors, sois patient. Jésus-Christ te donnera ce dont tu as le plus besoin. Du temps. Alors, moi, je dis, le temps, c'est long. Non, c'est Dieu qui nous donne le temps pour justement... nous guérir, nous penser, nous reposer, et nous on s'énerve en plus. Faut pas s'énerver quand c'est long. Faut rester calme, froid, comme le serpent. Il est froid, le serpent. Tôt ou tard, tout recommencera à tourner en ta faveur. C'est un texte de la Bible que je paraphrase. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut du temps. On est dans le temps, donc c'est comme ça. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes les instruments de la lumière de Jésus-Christ. Nous sommes ses instruments. On n'a aucune raison de s'enorgueillir. Mais on n'a également aucune raison de se sentir coupable. Jésus a pardonné tous nos péchés. Et ceux qui nous accusent sont frères de celui qui est le grand accusateur, le diable. Alors, c'est vite, vite, on les reconnaît vite. Puis c'est tout. Puis s'ils ont raison de nous accuser... Bon, ben voilà, on reconnaît. Mais s'ils ont tort, bon, ben voilà, on s'en fout. Donc, on n'a aucune raison ni de nous s'enorgueillir, ni de se sentir coupable. Si tu es conscient d'être un instrument de la lumière, alors tu vas te sentir beaucoup plus tranquille et beaucoup plus sûr de toi. Il faut être conscient d'être un enfant de la lumière, conscient. Se rendre compte à quel point c'est merveilleux de vivre dans un monde de ténèbres et d'être fils de la lumière dans un royaume avec des forteresses autour de nous. C'est magnifique. Elles existent, ces forteresses. Il y a des anges autour de nous, là, avec des épées flamboyantes. Ils sont là. Des fois, on peut les entrevoir, mais pas toujours, mais ils sont là, je vous assure. La Bible dit que c'est comme ça et c'est comme ça. Alors, il vous est arrivé de plonger. Vous avez plongé parce qu'on vous a tendu un piège. Vous êtes dans les eaux profondes. C'est terrible. Vous avez plongé dans un abîme de souffrance. Vous avez plongé dans... d'un abîme d'abandon, de maladie, de ruine, eh bien, l'ange du Seigneur te dit aujourd'hui, souviens-toi d'une chose. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais c'est le fait de rester sous l'eau.
C'est vrai, hein, Titi, cet après-midi, on va plonger dans la piscine. Plonger, ça peut même être amusant. Ce qui est dangereux, c'est de rester sous l'eau trop longtemps. T'es d'accord, hein? Ben voilà. Dans la vie, c'est la même chose. On peut plonger dans des eaux pas toujours très très nettes. On peut, voilà. Mais il faut en sortir. Il faut en sortir. Alors rassemble tes forces. Tu sais, celle dont Pierre parle dans Pierre 1, 5, 3, 9, celle dont on a lu le passage tout à l'heure. Ajoute à la foi, à la vertu, la connaissance et toutes ces choses-là. Rassemble toutes ces forces, prends du temps pour le faire, rassemble-les en toi. Et avec ça, ben, tu sors de la situation dans laquelle tu es. Tu sors de là. Tu sors de là. Je me souviens d'une vieille dame qui se trouvait justement, qui avait plongé dans un enfer épouvantable. Enfin, quand je dis une vieille dame, c'est une vieille dame maintenant, mais à l'époque, elle doit avoir une cinquantaine d'années. C'est pas vieux, 50 ans, hein. Surtout quand c'est quelqu'un qui a 66 ans qui le dit. 50 ans. Et bien, je me souviens de cette dame qui était mariée avec un homme qui n'était pas gentil du tout, qui était terrible. Elle souffrait beaucoup, et en tant que chrétienne, elle ne pouvait pas divorcer. C'était pas possible. On ne peut divorcer qu'en cas de. Un chrétien ne peut divorcer qu'en cas d'infidélité. Mais comment voulez-vous? C'était pas possible. Alors comment faire? Comment faire? C'était très, très, très difficile pour elle. Et chaque dimanche, elle venait à la communauté pour écouter la parole de Dieu, pour voir sa fille, pour voir son fils. Et puis à chaque fois, elle me disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Ma vie, c'est vraiment si difficile avec mon mari, c'est vraiment si difficile. Et je lui disais, mais sois gentil avec lui, ne te refuse pas à lui, mais arrête de lui parler de Jésus, ça l'agace. Alors déjà qu'il est moitié, enfin, il ne fera pas dingue. Si en plus tu lui parles de Jésus puis que ça l'énerve, c'est arrête de lui parler de Jésus, il a entendu, ça suffit maintenant. Arrête de lui en parler, fais-lui des bons petits plats, sois aimante, sois gentil avec lui, puis les choses s'arrangeront. Et cette sœur m'a cru. Elle m'a cru parce qu'elle m'aimait. Et elle a fait ça. Et très peu de temps après, son mari, il a demandé lui-même le divorce. Elle était dégagée. Elle était dégagée. Et il pouvait plus supporter d'avoir cette femme extraordinaire, cette femme si sainte à la maison. Vous voyez, si rien ne va, rassemble toutes les vertus chrétiennes, toutes ces armes du Dieu d'amour, et regarde comment Dieu va faire. Reste immobile, comme un serpent, tu attends, tu regardes. En étant bien, et en faisant le bien, tu attires le bien. C'est une loi. Je suis pas pour le divorce, bien entendu, mais il y a des cas où c'est le mieux à faire. Je connais un autre cas aussi d'un frère là, qui va venir bientôt au mois d'août. C'est le mieux à faire. C'est une catastrophe. Des mariages qui sont arrangés dans les églises, des machins, ces trucs à coups de prophétie. Oh, mon Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul dit, n'empêchez pas de prophétiser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en avait qui prophétisaient déjà tellement d'âneries dans l'église de Jésus-Christ au début, que les gens disaient, il faut arrêter cette histoire avec la prophétie, c'est une horreur. Il dit, non, non, n'empêchez pas, parce que c'est pas parce qu'il y a des fausses prophéties qu'il n'y en a pas des vraies. Seulement, ce qu'il faut, c'est une éducation. Mais les gens ils se croient prophètes, ils ne veulent pas être éduqués, ils se croient inspirés par Dieu, ils n'écoutent plus que Dieu. Donc, vous ne pouvez rien faire. C'est difficile, c'est très difficile. Donc voilà, ils marient les gens dans les églises à coups de prophétie. C'est à cause de la dureté du cœur, soit que bon ben voilà, Dieu permet maintenant qu'on divorce, si ça vient vraiment être intenable. Eh bien depuis, cette sœur, elle est devenue très âgée. Elle connaît le grand bonheur, c'est un grand bonheur de vivre avec son fils, de vivre avec sa fille et leurs petits-enfants. C'est pas merveilleux? Dieu s'est occupé d'elle d'une façon, voilà, comme ça, mais parce qu'elle m'a écouté. Tu vois, mon frère, ma sœur, ce que tu es, c'est pas rien. Et par conséquent, ce que tu dis, c'est pas rien non plus. Est-ce que tu sais que les mots qui sortent de ta bouche sont conservés dans la mémoire de l'univers? On comprend mieux ce que ça veut dire maintenant qu'on a des ordinateurs, hein? C'est conservé dans la mémoire de l'univers. C'est comme un témoignage de ce que tu penses, de ce que tu es. Alors il faut t'efforcer
de vivre en accord avec ce que tu dis. Tu dis, je crois en Dieu, alors efforce-toi de vivre en accord avec cette confession, avec ce que tu dis. Il faut s'efforcer de le faire. Des fois, dans ce monde, ça serait des fois plus facile de s'en tirer par une pirouette. Non, 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 non. Efforce-toi d'être vraiment ce que tu dis que tu es. Et ne te prive pas de dire ce que tu es. Dis que tu es un fils de Dieu. Dis que tu es une fille de Dieu. Ça va te verrouiller. Ça va te verrouiller. Vous savez, dans les ascenseurs, un ascenseur, il ne peut jamais tomber comme ça. Il y a des, ce qu'on appelle des, je sais pas comment, des comment, des paillets, des paliers. Voilà, c'est des, il y a des trucs qui sont comme des crochets. D'ailleurs, vous entendez quand vous êtes dans un ascenseur et que vous descendez ou vous montez, vous entendez clic, clic. C'est des trucs qui, au cas où il y a un problème, eh bien, vous tombez, mais pas tout au fond. Ça, l'ascenseur est retenu par ces clics, ces machins-là. Alors, il faut que tu t'efforces de te verrouiller comme ça, d'avoir des clics. Et ces clics, c'est ta confession. Dis partout où tu vas que tu es chrétien. À ce moment-là, tu sais que tu as un témoignage à défendre, tu ne peux plus te permettre. Et c'est bon de faire ça, c'est une protection, tu te protèges toi-même, tu te gardes toi-même quand tu fais ça. La Bible dit, celui qui se garde, le diable ne le touche pas. D'accord? C'est le conseil que je vous donne ce matin. Et puis, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, ce que tu penses être, tu finiras par le devenir parfaitement, parce que tu vas me dire, oui, moi je suis un enfant de Dieu, mais tu sais, bof, 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 il y a des moments, je ne suis pas tellement... Voilà, donc, bon, ça se peut que tu aies un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu manques de maturité. Vous avez des gens, ils ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, ils manquent encore de maturité. Mais bon, ils sont quand même des fils de Dieu, mais ils sont encore seulement que des enfants, quoi. Ils sont pas, il faut qu'ils grandissent, il faut grandir. Mais si tu dis « je suis un enfant de Dieu », eh bien, tu finiras par devenir réellement fils de Dieu, c'est-à-dire une personne qui peut s'occuper des affaires de son père. N'attends pas d'être parfait pour le dire. Dis-le partout. Il y a une voix qui vient du ciel aujourd'hui pour te dire, tout le monde commet des erreurs, mais tu es pardonné. Mais Dieu te dit aussi, je ne peux pas te pardonner malgré toi. Il faut alors que tu te décides et que tu acceptes le pardon de Dieu, et que tu te pardonnes toi aussi. Puis voilà. Voilà. Il faut que la boucle soit bouclée. Il ne faut pas que tu crois que Dieu va tout faire. Il y en a qui disent, j'ai péché, j'ai demandé un pardon à Dieu, mais je n'ai pas encore la joie de mon salut, donc je pense que Dieu ne m'a pas pardonné. C'est des âneries. C'est la chair, ça. Vous devez être spirituel, faire ce que la Bible dit, ce que je vous enseigne là. Et puis, affirme ce que tu es, pas seulement un enfant de Dieu, mais un fils de Dieu, même si tu n'es qu'un enfant encore. Affirme que tu es un fils de Dieu, un sujet du royaume de Dieu, en tant que fils héritier de tout ce qui est à Dieu. Alors, les bas de plafond vont penser, mais pff, on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Tu laisses ça au WC et puis tu tires la chasse. Ici, à la communauté, Philippe et Mélodie nous font du pain. Ils le font de A à Z, dans les règles de l'art, et c'est magnifique. Mais je regardais à ce propos quelque chose. Vous savez, on a des décisions à prendre et on paraît libre de les prendre, mais en réalité... les décisions qu'on prend, c'est simplement on montre ce qu'on est réellement en Jésus-Christ. On manifeste sur terre ce que nous sommes dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire en Jésus-Christ, selon Éphésiens 1. Vous vous rappelez, je vous disais, ici-bas, c'est Christ qui est en nous, mais dans les lieux célestes, c'est nous qui sommes en Christ. Et nous manifestons ici ce que nous sommes en Christ. Alors, il faut faire attention. Il faut être ouvert, mais pas trop. Ne soyons pas ouverts à n'importe quoi. Soyons ouverts à l'action de l'Esprit, c'est-à-dire au feu du Saint-Esprit. Si nous avons l'Esprit de Dieu, alors nous sommes de Lui.
Alors, il peut nous arriver de commettre des erreurs, c'est certain, voilà. Mais rapidement, on revient sur le droit chemin parce que nous ne sommes pas ouverts à tout. Nous ne sommes pas ouverts à tous. C'est vrai, oui, nous sommes libres en Jésus-Christ, mais nous gardons toujours à la pensée que dans un four à pain ouvert, le pain ne cuit pas. Vous voyez, c'est vrai, Mélodie et Philippe, dans un four ouvert, il ne faut pas être ouvert à tout. Il faut être ouvert dans le four, le pain il est ouvert à la chaleur du four, au feu du four, et il cuit, il devient agréable à pour tout le monde, ça sent bon, ensuite c'est bon, la croûte est croustillante, la mie est bonne et tout, mais si le four est ouvert à ce qui est à l'extérieur, il ne cuit pas, c'est indigeste. Dieu ni personne ne veut en manger. Alors, le disciple de Jésus, il est ouvert quand il faut, avec courage, et il sera fermé quand il faut, sans lâcheté. Ce n'est pas la lâcheté de se fermer. Ce n'est pas la lâcheté. Vous voyez, il faut regarder en haut. Inspirez-vous de ce qui est inspirant, de ceux qui sont inspirants, et ne vous laissez pas troubler par des gens qui, incapables de parvenir au moindre résultat, passent leur temps à prêcher le renoncement. Ils ont des visions, ça ne marche pas, alors ils y renoncent. Non, non, soyez pas comme ça. Vous avez des armes offensives, vous avez des armes défensives, il faut apprendre à vous en servir. Dans un feuilleton à la télé, c'était la jeunesse de Merlin l'enchanteur, et on le voyait servir son maître, le roi Arthur, qui était jeune et qui faisait des combats. Il lui donnait les armes et tout. Et le roi Arthur s'entraînait, n'est-ce pas, au combat. Eh bien, ça me faisait penser, voilà, nous avons des anges qui nous tendent les armes, mais il faut encore, il faut s'en servir et s'exercer. C'est tous les jours, dans tous les détails, il faut utiliser les armes de Dieu. Ne renoncez pas à la vie. Ne renoncez pas à vivre de façon noble. Ne renoncez pas à vivre une vie digne de louange. Ne vous donnez pas des fausses excuses, mais tournez vos regards vers Jésus-Christ, qui est le roi de ceux qui règnent. Soyez des régnants, que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, merci pour ces quelques mots que tu m'as inspirés, que je donne à mes frères et sœurs ce matin. Et je te prie que chacun et chacune puisse partir dans cette semaine en régnant sur sa propre vie, en se fermant, sans lâcheté, en s'ouvrant avec courage. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Maintenant nous allons avoir un moment de louange et je vais demander aux musiciens de s'approcher, que Dieu les bénisse ainsi que chacun d'entre nous. Amen. Au revoir, à bientôt. Au revoir.